我可以，我可以。
Bonsoir et bienvenue à cette tribune de la presse. Nous sommes le vendredi 7 novembre 2008. Comme chaque vendredi, nous analysons avec nos confrères quelques faits importants de l'actualité de la semaine. Nous en avons sélectionné trois. Le sommet international sur la crise dans l'Est de la RDC, qui a débuté ce vendredi à Nairobi au Kenya. Ce sommet réunit notamment les présidents congolais Joseph Kabila et rwandais Paul Kagame. Nous parlerons aussi des visites de travail à l'est du pays du Premier ministre Adolphe Muzito et du secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix Alain Leroy. Enfin, l'élection du premier président noir de l'histoire des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, clôturera cette tribune de la presse. Nous avons comme invité Jean-Marie Katamba, producteur de fauteuils blancs et coordonnateur de la cellule de visibilité des cinq chantiers, et Yenga Sana, journaliste au sein du quotidien Le Potentiel, et Bella Mboui, directeur général de la chaîne de télévision Africa TV. Le sommet de Nairobi, la tournée du Premier ministre à l'est du pays et l'élection de Barack Obama, tels sont quelques faits d'actualité traités par la presse quinoise cette semaine. Notre confrère Pierrot Elamegi a lu pour vous quelques journaux quinois. Suivons-le dans cette revue de presse avant de poursuivre cette émission.
Bonsoir. Les principaux journaux parus ce matin à Kinshasa titrent sur le sommet international de Nairobi consacré au règlement du conflit dans le Nord Kivu et auquel participent le chef de l'État congolais Joseph Kabila et son homologue rwandais Paul Kagame. Aujourd'hui à Nairobi, Kabila et Kagame réconciliés, note la tempête des tropiques. Ce journal estime que si la sincérité manque à l'appel, ce énième sommet sur la crise en RDC risque d'accoucher d'une souris. Parmi les points à traiter, la tempête des tropiques évoque l'entretien supposé des FDLR par le gouvernement congolais ainsi que l'appui de Kigali aux rebelles conduits par le général Laurent Kunda. Les deux chefs d'État vont parler des différends qui les opposent, mais sans en toucher le fond. L'un soupçonnant l'autre de ne pas jouer franc-jeu, ajoute ce journal. Aujourd'hui à Nairobi et en présence de Ban Ki-moon, enfin Kabila et Kagame se parlent. Indique pour sa part la référence plus de ce vendredi. Le journal Le Phare, pour sa part, évoque l'hostilité de Louis Michel à une solution militaire affirmant que l'Union européenne choisit le dialogue. Le Phare fait savoir que seule l'option politique basée sur le dialogue et la négociation reste valable. Cependant, ce quotidien ne s'empêche pas de relever des contradictions congolaises qui risquent de ruiner tous les efforts d'EP. L'observateur remarque que le sommet de Nairobi se tient pendant que la situation sécuritaire et humanitaire est toujours préoccupante au Nord Kivu. Une situation qui n'épargne pas les journalistes. L'observateur évoque des informations selon lesquelles un journaliste congolais d'une radio locale aurait été tué à Kiwandia et d'un autre journaliste belge et un ancien reporter des radios Kapi qui ont été kidnappés et libérés. Le journal Avenir, quant à lui, fustige les dépenses qu'occasionnent ces genres de rencontres. Dans sa parution d'hier jeudi, l'Avenir estime que l'argent dépensé pour l'organisation des sommets devrait plutôt servir à financer les entités qui sont en mesure de combattre réellement les combattants hutus rwandais FDLR. Les quotidiens de Kinshasa se sont aussi penchés sur la première visite du Premier ministre Adolphe Muzito à l'est de la RDC. Selon le palmarès de ce jeudi, Adolphe Muzito est déterminé à ramener la paix et faciliter le retour de milliers de déplacés dans leur milieu d'origine. L'observateur affirme que lors de sa tournée, Adolphe Muzito s'est entretenu avec toutes les couches de la population ainsi que les officiels qui tous n'ont qu'un seul souci, le retour de la paix dans la région. Autre commentaire sur l'actualité de la semaine, l'Avenir de ce jeudi évoque la visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations du maintien des paix au Nord Kivu, Alain Leroy, qui a annoncé le renforcement de la MONUC avec 3000 hommes complémentaires, indique l'Avenir. Notons enfin l'élection de Barack Obama comme premier président noir à la tête des États-Unis d'Amérique. Pour le part de jeudi passé, l'élection d'Obama est une leçon pour les Congolais qui doivent se baser sur les compétences et non sur les critères ethniques ou tribaux pour opérer leur choix. Allusion au message de félicitations de Joseph Kabila à Barack Obama, ce vendredi, le Potentiel indique que Kabila veut travailler avec Obama pour établir la paix en République démocratique du Congo. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.
Merci Pierrot et Elamegi. Jean-Marie Katamba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes producteur de l'émission Fauteuil Blanc qui reçoit des personnalités importantes de ce pays et vous êtes aussi coordonnateur de la cellule de visibilité des cinq chantiers. Un petit commentaire par rapport au traitement de la presse par les journaux. Est-ce qu'ils ont traité les faits les plus importants ou il y en a peut-être qu'ils ont oublié?
Non, je pense que ce sont les faits sur lesquels on peut revenir avec un peu plus de détails. Le plus important étant la situation catastrophique qui traverse notre pays, le nombre de victimes sans cesse croissant à l'Est, et surtout l'amorce de marches et solutions à trouver à ces multiples problèmes. Mais je pense qu'il aurait fallu aussi parler de l'inertie de l'opinion, d'une certaine démarche nonchalante de nos populations ou de notre opinion nationale par rapport à la crise et par rapport à la situation qui est grave. Et la presse a été un peu timorée par rapport à la gravité de la situation. Je vous rappelle qu'il y a 50 morts par jour, rien que les enfants. Hier, il y a eu deux massacres hier. Identifié tout à l'heure, je viens de suivre France 24 et e-télévision, on a montré des cadavres calcinés là où sont passées les troupes de Laurent Kunda. Crime contre l'humanité manifeste, mais la presse est revenue comme si c'était un fait divers. Ça, c'est grave.
Merci beaucoup, on aura à revenir là-dessus. Et Inga Alcena, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au sein de la rédaction du quotidien Le Potentiel. Un petit commentaire peut-être aussi pour ce qui est des sujets importants abordés par la presse quinoise cette semaine.
Effectivement, ils n'ont pas raté leur coche, comme on dit. Ils ont évoqué les assises, le sommet d'aujourd'hui, le sommet de Nairobi. C'est important, c'est capital. Au moment où les yeux sont braqués vers la capitale kenyane. Ça, c'est le 1. De 2, nous avons remarqué qu'on n'a pas oublié la tournée du Premier ministre qui s'est jeté à l'eau. Et curieusement, le Premier ministre qui voulait s'arrêter seulement peut-être dans le nord, le sud, Kivu, la province orientale, a jeté un regard sur Kindu, qui pose problème, et c'est très important pour nous.
Mais pas de problème de sécurité, vraiment, à Kindu, pas beaucoup, du moins.
Ah bon,
au
Maniema, il n'y a pas.
Il y a des Maïmaï.
Si, exactement, à une jetée de pierre, parce qu'il y a des Maïmaï dans le territoire voisin de Shabunda, qui est dans le sud Kivu, mais il fallait passer par Kindu. Qu'à cela ne tienne, mais c'est dire que le Premier ministre est fort préoccupé de cette question-là de l'Est.
Merci. Nous avons également dans ce studio Béla Mbouy. Bonsoir.
Bonsoir, Claude.
Vous êtes le directeur général de la chaîne de télévision Africa TV, qui est suspendue, c'est ça, qui n'émet pas depuis un certain temps.
Bon, jusqu'à présent, suspendue sans raison valable.
Nous espérons bien qu'elle va rouvrir bientôt.
Avec le nouveau ministre, on l'espère bien, en tout cas.
Oui. Je vous en prie. Votre petit commentaire également par rapport à l'actualité. Est-ce que la presse a traité suffisamment les questions importantes ou les faits importants de cette semaine?
À mon avis, oui, Claude. À mon avis, oui. Il ne se passe pas un jour sans que nous lisions des manchettes sur la situation sécuritaire de l'Est, sur l'évolution de la démarche de la communauté internationale, sur les voies de solutions qui sont proposées par les uns et les autres. Il va de soi qu'il y a 2-3 jours, l'événement mondial, c'est quand même l'élection de Barack Obama. Bah, pendant un ou deux jours, les principaux journaux ont fait la une sur Barack Obama. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de le faire, mais trop vite, ils sont revenus sur l'essentiel de l'actualité nationale, c'est-à-dire la situation sécuritaire à l'Est. Et je dois dire que il y a tout le monde vraiment embraye sous la même voie, en tout cas parmi les principaux journaux, ceux qui sont considérés comme les majors, qui traitent l'information avec assez de responsabilité. Je n'ai pas vu jusqu'à présent de voix discordante, sincèrement.
Mais nous en profitons également pour dénoncer en tant que journaliste la mort d'un des nôtres.
L'assassinat
d'un journaliste, d'un compagnon qui s'appelle Alfred Mounia-Maliza, qui a été tué lors des affrontements de mardi et mercredi à Routour entre les CNDP et les Maïmaï.
Oui, évidemment, il me manque des mots pour qualifier cet acte, je dirais, pour reprendre la phraseologie de Jacques Chirac, c'est un acte que je ne saurais pas hésiter de qualifier d'inqualifiable, en fait. On ne doit pas constamment tuer des journalistes qui sont en plein exercice de leur métier. Ils se battent jour et nuit dans des conditions extrêmement difficiles pour que l'opinion puisse avoir accès à l'information. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent en remerciement? C'est d'être abattus lâchement, comme si c'était des moutons, comme si c'était des bêtes. C'est vraiment un acte qui est hautement répréhensible et à condamner.
Je rappelle que l'ONG Journaliste en danger a également condamné cet assassinat. Dans notre premier thème, donc, nous passons directement à notre premier thème de ce soir, qui est le sommet de Nairobi, qui va se pencher sur la crise à l'est de la RDC. Ce sommet a débuté ses travaux ce vendredi en présence du secrétaire général de l'ONU. Les travaux ont commencé par des entretiens bilatéraux entre les participants avant une séance plénière au cours de laquelle M. Ban Ki-moon devait prononcer un discours sur le conflit dans le Kivu. Les chefs d'État congolais et rwandais prennent part à ce sommet, ainsi que plusieurs autres chefs d'État africains. Mais quels sont les enjeux de ce sommet? Notre confrère Innocent Olinga y a réfléchi.
Les deux chefs d'État congolais et rwandais se verront entourés par leurs homologues kenyans, ougandais, tanzaniens, burundais et sud-africains. Le Congolais Sassou Nguesso pourra aussi être de la partie, selon Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui participera aussi à ce sommet. Il voudrait s'asseoir avec les présidents Kabila et Kagame et les encourager à trouver un chemin vers la paix. Mais mercredi déjà, le président rwandais dénonçait les faiblesses des Occidentaux sur ces dossiers, estimant que la communauté internationale fuit les problèmes de la crise dans l'est de la RDC. En pensant que son pays a une influence pour aider à la résolution du conflit. Alors que le Rwanda nie toujours son implication dans tout ce qui se passe dans l'est de la RDC, les autorités congolaises ne cessent de l'accuser d'être derrière le CNDP de Laurent Nkunda. Le CNDP qui se dit n'est rien attendre du sommet de ce vendredi à Nairobi exige toujours des discussions directes avec Kinshasa. Mais le gouvernement congolais espère lui beaucoup de ce sommet qui se présente selon Lambert Mende, son porte-parole, comme un enjeu unique pour la RDC de mettre fin aux incompréhensions qui ont caractérisé au cours des dernières années les relations avec les voisins au Rwanda.
Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet? Parce que déjà le CNDP dit ne rien attendre de, justement de ce sommet.
Mais c'est de dire de la bonne foi que peut afficher si tu prétends défendre les intérêts des Congolais. C'est une occasion, ce sommet offert à la communauté internationale de prendre ses responsabilités par rapport à la situation que vit tragiquement la République démocratique du Congo. Il faut vous rappeler que les Rwandais qui ont traversé au Congo, c'est avec le soutien, l'encouragement et surtout les souhaits de la communauté internationale en 1996, si je ne m'abuse.
En 1994,
exactement, 16, quand on était en pleine guerre. La communauté internationale est offusquée contre les violations des droits de l'homme, les génocides, les drames humanitaires. Ce qui se passe au Congo, c'est 6 fois les Kosovo, c'est 7 fois les génocides rwandais. Mais la communauté internationale assiste impuissante. Certains disent même que la communauté internationale est serrée, complice de ce qui se passe.
Et quand vous parlez de la communauté internationale, c'est qui?
Mais c'est l'ensemble de grandes puissances qui nous ont accompagnés et qui peuvent mettre fin à cette affaire. Est-ce que c'est tout à fait normal qu'on ne voit rien avec les satellites, les services de renseignement, les migrations, les Rwandas, ce n'est pas sur Mars?
Et nous, les Congolais, c'est notre part.
Mais notre part est que...
toujours regarder vers la
paix. Notre part est que nous, on nous a imposé Nos voisins ont traversé avec armes, munitions, femmes et enfants et avec les chèvres. Non seulement l'écosystème a été détruit,
mais on les a aussi laissés traverser. Hein. C'est nous qui devrions prendre la responsabilité de les désarmer.
Le gouvernement de Mobutu de l'époque, Léon Kimo Wandondo, était premier ministre. On dit, de l'autre côté, au Rwanda, il y a génocide. S'il vous plaît, laissez les Hutus majoritaires et les autres, tous si modérés, traverser, s'il vous plaît, sinon il y aurait catastrophe. On laisse le Rwandais traverser. La communauté dit, oui, on va vous accompagner dans ces processus. Et vous connaissez la suite. Aujourd'hui, la même communauté, au lieu de la République démocratique du Congo, de ramener ces Rwandais qui sont venus chez nous, chez eux, pour ceux qui désirent rentrer chez eux, et de dire, attendez,
on n'a pas beaucoup de temps,
à Paul Kagame d'accepter que ces Rwandais reviennent chez eux, On laisse ce prétexte perdurer d'une façon hypocrite et continuellement on piège les autorités congolaises avec toujours des réunions, avec toujours des conditionnalités qu'on sait auparavant qui sont impossibles à atteindre.
Donc j'ai l'impression que vous n'attendez rien de ce sommet.
J'attends bien entendu un éclaircissement, un encouragement et un accompagnement des comités de rassemblement.
Merci Jean-Marie Kassamba. Et Ngassana, vrai journaliste, on ressent du quotidien le potentiel. Est-ce que vous avez l'impression que la communauté internationale n'était pas assez pour obliger les autorités rwandaises à recevoir leur population qui sont ici, notamment les miliciens hutus rwandais et leurs dépendants?
Je voudrais rappeler que Nairobi 2, ça constitue une étape qui confirme que la solution n'est pas militaire. On doit nécessairement trouver une solution diplomatique et politique à ce problème de l'Est. Ça, c'est un. Et si la communauté internationale nous accompagne, le confrère de tout à l'heure nous a dit que c'est la même communauté qui nous a contraints d'accepter des réfugiés rwandais en 94. Et c'est exact. Il appartient à cette communauté de pouvoir aider notre pays à pouvoir trouver une solution diplomatique et politique à ce propos. Or, nous avons l'impression qu'on fournit aucun effort. Pourquoi? Parce que, au-delà de ce qui s'est passé, et ce qui se passe maintenant dans l'Est de la République, il y a des agendas cachés. Nous l'avons écrit, nous avons dit ça, et ces agendas cachés sont de plusieurs ordres, entre autres des agendas économiques. Il y a des ONG, Human Rights, Amnesty et même Oxfam, ils ont décrié ça. Il y a dernièrement International Crisis Group qui a signalé qu'il y a des multinationales qui tirent le ficelle. Au-delà de tout ce qui se passe, nous avons besoin d'une solution diplomatique et militaire. Et
vous pensez qu'à travers le sommet de Nairobi, on pourrait peut-être avoir, il peut y avoir une solution politique?
Tout dépendra de ce que les acteurs principaux, notamment la présence du secrétaire général est là, et surtout, nous aurions souhaité qu'il y ait la communauté internationale à travers les Américains, à travers aussi l'Union africaine qui est déjà là, et à travers aussi l'Union européenne, puisse exercer des pressions sur nous. De cette dette.
Mais ce n'est pas le premier sommet.
C'est ça, justement. Mais est-ce que ce que nous avons préparé la fois passée, on doit faire l'inventaire, est-ce que ça a été fait? Non.
Merci beaucoup, Bella Mbouye. Vous êtes directeur général de la chaîne de télévision Africa TV. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet?
Bien, écoutez, Nairobi 2, s'il existe, ça veut dire qu'il y a eu déjà Nairobi 1. Voilà, donc il faudrait d'abord qu'ils fassent un inventaire sur ce qu'ils avaient déjà convenu à Nairobi 1. Est-ce que le partenaire a-t-il réussi, oui ou non, à tenir les engagements qu'ils avaient pris?
Et quels étaient en bref les engagements?
Oui, tout à fait. En bref, l'engagement, c'est que le Rwanda s'engageait à ne soutenir aucun mouvement insurrectionnel en RDC, particulièrement le CNDP de Laurent Kondamigou.
Est-ce que cela a été fait?
Je ne sais pas. De l'autre côté, le gouvernement de la RDC avait été engagé à désarmer et à rapatrier ou à éloigner les FDLR interamoïs. Est-ce que ça a été fait? Je ne sais pas non plus. Cela étant, je voudrais quand même insister sur un fait. Généralement, nous disons que voilà, la communauté internationale nous a imposé de recevoir les réfugiés rwandais de 94. Et que c'est à elle qu'il appartient aujourd'hui de résoudre cette question. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact du tout. Les conventions internationales imposent qu'on ne ferme pas la porte aux réfugiés qui fuient une guerre, lorsqu'on est voisin. Et que les Rwandais qui ont fui...
Mais avec armes et bagages.
Voilà, justement, j'y arrive. Les Rwandais qui ont fui en 1994 de leur pays se sont dirigés vers deux destinations majeures. La RDC, ainsi que la Tanzanie. Si le peuple congolais, lui, n'a absolument rien à faire, n'a rien fait contre le Rwandais, n'a pas permis leur entrée, mais c'est le gouvernement du Zaïre de l'époque
qui a joué de l'irresponsabilité. RAB de la Zambie a reçu sur son territoire 2 millions de Rwandais. Qu'est-ce que la, je parle de la Tanzanie, excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dès la frontière, l'armée tanzanienne s'est déployée. Elle a désarmé totalement tous ceux qui étaient militaires ou miliciens intérieurement, a séparé les combattants des civils et a éloigné tout le monde qu'elle a installé dans des camps au-delà de 150 km de la frontière de leur pays d'origine. Mais ce que le gouvernement du Zaïre de Mobutu n'a pas su faire.
Oui, Bélan, mais concernant les engagements
c'est la,
de...
C'est la faute, c'est un héritage de l'incompétence du gouvernement du Zaïre. Le gouvernement qui succède à celui-là, en vertu du principe de la continuité de l'État, il doit d'abord reconnaître qu'on a été dirigé par un gouvernement totalement incompétent qui n'a pas suivi son rôle. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, nous, maintenant, pour pouvoir déloger ces gens? Parce que ces gens-là, le Rwanda le présente comme une menace, mais comme une menace future.
Ils sont une menace
chez nous, maintenant.
Bélan, s'il vous plaît, vous avez dit qu'à Nairobi 1, il y avait des engagements pris d'un côté comme de l'autre, entre le Rwanda et la RDC, mais l'armée ougandaise a annoncé avoir remis la semaine dernière aux autorités de Kigali des combattants de nationalité rwandaise engagés dans la rébellion de Laurent Nkunda. Le porte-parole de l'armée ougandaise, le major Paddy Nkunda, a affirmé à l'agence presse que 19 prisonniers ont été remis à des officiers rwandais jeudi dernier au poste frontalier Ouganda-Rwanda de Katuna. Ceci, d'après lui, dans le cadre de leurs obligations de bon voisinage. Est-ce que ça ne montre pas que le gouvernement de Kigali...
C'est un élément que la RDC doit pouvoir élever lors de ce sommet. Pour dire, voilà, nous avons fait traiter de bonne foi, notre côté, mais voilà, de votre côté, une preuve qui vient, même pas de nous, mais d'un État voisin.
Merci. Merci. C'est Jean-Marie Kassamba.
Vous savez, le métier que nous faisons nous oblige quelquefois à user de ce qu'on appelle l'objectivité qui s'inscrit dans la déontologie journalistique. Il ne faut pas dire des contre-vérités. La première chose est que lorsque il y a les gens qui traversent, ce sont des réfugiés rwandais qui traversent avec armes, même l'argent à l'époque. Ils avaient même pillé les banques rwandaises de l'époque. Ils ont traversé avec tout cela. Le gouvernement du Zaïre de l'époque était moribond. Il n'existait même pas. S'il vous plaît.
Mais il y avait quand même une armée.
S'il vous plaît, l'armée de Mobutu n'existait pas à cette époque-là.
La DSP était là. Hein.
Oui, mais la DSP qui a combattu. Est-ce que les troupes de l'Afdel ont été combattues jusqu'ici à Kinshasa? Non, monsieur. Il n'y avait pas d'armée qui pouvait faire face à ces gens qui traversaient. D'autant plus que c'est la même zone. Ils se connaissent là-bas. Les Tutsis, les Hutus, les Banyamulenge de chez nous, y compris les Tutsis, les Hutus du Rwanda, c'est le même peuple. Les mêmes montagnes, s'il vous plaît. Et il y avait une marée humaine telle qu'en face, en République démocratique du Congo Zaïre de l'époque, il n'y avait pas une capacité de contrôle. Ça, c'est de un. Et de deux, quand on dit le Rwanda ne soutient pas, on ne sait pas qui soutient ou pas, mais parfois, il ne faut pas être tellement aveugle. Lorsque Museveni lui-même dit il a chez lui des combattants CNDP, lorsque ici, au Congo, il y a des prisonniers rwandais, et il y a les courriers ici de la MONUC dit on a des enfants autant rwandais qui sont dans les prisons au Congo, il faut les libérer. Ces enfants ne sont pas sortis de Jupiter.
Est-ce que le gouvernement congolais ne collabore pas aussi avec
attendez, monsieur. Lorsque le responsable de l'ONU dit il y a des chars qui tirent depuis la frontière rwandaise vers la RDC.
Il y a eu des échanges de tirs, hein. Ça,
voilà. Ces chars tirent du Rwanda vers le Congo. Ça, c'est
le Congo a aussi tiré vers le Rwanda.
Oui, bien entendu, mais le Congo peut se défendre. Ce que je veux dire est que il ne faut pas, comme ça, évacuer vers la de la main. Il n'y a pas de soutien avéré du Rwanda vers la RDC. Mais c'est faux, ça. C'est de l'hypocrisie. Ce que je voulais constater, je vais terminer par là, est que cette réunion va permettre de se dire les vérités en face. D'une part, ceux qui utilisent les génocides rwandais comme prétexte pour que le Rwanda continue à exercer la RDC doivent tempérer leur courage. l'agenda caché ou les agendas cachés dont parlaient les confrères tout à l'heure sont effectifs et sont existent bel et bien. Il appartient aux Congolais de dire des choses vraies, à la presse de dire des choses vraies, de la manière à ce qu'on ne soit pas complice d'un complot qui est tout à fait initié contre la République. Et ça, ça y va de la démarche républicaine.
Jean-Marie Katama, mais qu'est-ce que vous dites de dernière déclaration de Kagame et à l'agence France Presse,
oui,
où il a affirmé que la racine du problème au Nord Kivu se trouvait dans l'échec du gouvernement de Kinshasa à résoudre le problème dans son propre pays et que la communauté internationale fuit le véritable problème. Donc le problème se trouve ici au Congo, ce n'est pas un problème rwandais.
Au Congo, il y a eu des dialogues intercongolais des institutions des élections 1 plus 4, etc., y compris le RCD venant de la rébellion soutenue par le Rwanda. Est-ce qu'au Rwanda, depuis, il y a eu un processus électoral? La réponse est non.
Merci.
La réponse est non.
Merci. Mais est-ce que finalement, et la SANA, c'est une réunion de plus, ce sommet de Nairobi, un sommet pour rien, est-ce qu'on peut le dire?
C'est possible que ça puisse être un sommet pour rien. Nous disions que...
les gens jouent au cache-cache, hein.
Évidemment, nous avons titré d'ailleurs ce matin que on devait jouer casque sur table. C'est important parce que les gens jouent au cache-cache. On sait pertinemment bien qu'à Nairobi 1, il y a eu des feuilles de route. On leur a demandé au gouvernement congolais d'identifier de l'air, de les éloigner ou bien de les localiser de façon à ce qu'on puisse soit les rapatrier ou de les envoyer ailleurs.
Exactement. Est-ce qu'il y a une collaboration avérée entre les miliciens hutus rwandais, FDLR et l'armée congolaise, puisque c'est le credo du gouvernement rwandais et du CNDP-OC?
Évidemment, ça nous avons signé. Si on a signé ça à Nairobi 1, c'est que bon, nous avons reconnu tacitement cette opération, il y a cette collaboration, dans la mesure où la MONUC aussi, qui était facilitateur, a été associée à cette opération de rapatriement de SDLR. Et je vous rappelle que dernièrement, lors du temps de presse ici, on nous a dit que on avait rapatrié au moins plus de 11 000 FDLR.
Mais quel intérêt le gouvernement congolais aurait-il à collaborer avec les FDLR?
Vous me demandez ça, c'est une appréciation. Je ne sais pas. Si le gouvernement a intérêt à collaborer avec les FDLR, c'est qu'on a constaté que depuis que les FDLR étaient là, ça pouvait peut-être leur faciliter beaucoup de choses.
Comme quoi?
Un instant. Ce n'est pas seulement le FDLR, il y a aussi le groupe Mai Mai. Hein? Ça permet à notre armée, qui est très faible, j'avais dit ça la semaine passée, c'est une armée en gestation, pouvait s'associer avec les autres, pouvait peut-être s'allier avec les FDLR. Mais ce n'est pas avéré, ce n'est vraiment pas exact.
Merci beaucoup.
Pas ça.
Merci beaucoup. Donc nous sommes obligés de passer à notre premier terme.
Je vais me dire un petit mot.
Second terme, oui, franchement en une minute. Hein, parce que...
Oui, tout à fait. Je vais quand même dire que il est bon que le Rwanda et la RDC se parlent. Il est bon que les ressources de l'État se parlent. Si la réconciliation entre les deux peut être sincère, elle peut vraiment aider à résoudre un certain nombre de problèmes vraiment importants. Mais il n'empêche que il y a aussi des problèmes intérieurs auxquels le gouvernement doit s'atteler. Parler avec ceux qui ont des revendications. Essayer de voir si ces revendications-là sont valables ou pas. Il ne faut pas prendre l'excuse sur le fait qu'on est légitimé par les élections pour ne pas prendre langue avec des gens qu'on a trouvés en état insurrectionnel au moment de son élection. Le Burundi est dirigé par un gouvernement qui n'est pas moins légitime, qui a connu aussi un dialogue. Mais ça n'empêche pas le président Pierre Nkurunziza de dialoguer encore aujourd'hui avec les Hagaton Rwasa et
mais il y a le programme
Nel,
il y a le gouvernement qui a le programme.
Oui,
nous
avons été ensemble, Claude Kanta, vous et moi, ça n'a pas été un dialogue de qualité. On ne peut pas, lorsqu'il y a belligérance, et soit on veut résoudre le problème donné partout au monde, on met face à face ceux qui sont belligérants. On ne met pas tous les supplétifs, tous ceux qui combattent pour une raison ou une autre, on ne met pas tout le monde ensemble pour noyer un peu le vrai problème qui se pose.
Vous pensez que les autres groupes d'armée Maïmaï sont des supplétifs de l'armée congolaise?
Évidemment, mais
vous pensez aussi du CNDP. Hein.
En fait, je n'ai pas besoin du CNDP pour dire ça. En Côte d'Ivoire, lorsque le gouvernement combattait les forces nouvelles, il y avait à ses côtés le Front de libération du Grand Ouest, le mouvement de libération du Grand Ouest, mais c'était des supplétifs du gouvernement. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être un supplétif du gouvernement. Donc, pour trouver une solution durable, on se met en face avec celui qui se bat contre vous.
Merci beaucoup, Bélard. Nous restons toujours à l'est du pays. Donc, c'est depuis le début de cette semaine que le Premier ministre Adolphe Muzito a commencé sa tournée dans les provinces de l'est du pays et aussi. Et que s'est passé dans ce coin du pays? Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, Alain Leroy, le chef du gouvernement congolais est arrivé depuis mardi à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Le Premier ministre a pris tout son temps pour écouter les couches sociales et professionnelles de la place, afin de s'imprégner des problèmes sécuritaires et humanitaires du Kivu. Et dans une conférence de presse tenue à Goma, Adolphe Muzito a déclaré que le gouvernement était ouvert au dialogue avec tous les groupes armés, y compris le CNDP, mais uniquement dans le cadre du programme Amani. Il a aussi promis de mettre fin à la guerre au Nord Kivu. Adolphe Muzito était au micro de notre confrère José de Chartelinga.
Le dialogue nous paraît important sur le plan politique. Vous le savez bien, notre pays dispose d'un cadre approprié pour permettre aux Congolais d'échanger. C'est le programme Amani. Là-dedans, nous pourrions rouvrir les discussions, mais en attendant, le gouvernement est prêt à écouter tous les groupes armés. Je suis prêt à écouter et à recevoir les doléances des autres groupes, dont les CNDP, dont les PARECO et autres, et donc pour qu'on évolue vers la formalisation, mais dans un cadre approprié, parce que rien ne peut être crédible en termes de négociations, des résolutions que nous pourrions prendre dans l'avenir, si ça ne s'inscrit pas dans un cadre formel. Donc, les mots clés, c'est que nous allons diplomatiquement, politiquement, militairement, mettre fin à la guerre. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est cela.
Le chef du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU était lui aussi à Goma cette semaine. Alain Leroy était allé se rendre compte de la situation sur le terrain, mais aussi examiner les voies et moyens pour renforcer l'action de la MONUC, particulièrement dans cette province où, selon lui, la violence a atteint un niveau inacceptable. Alain Leroy a été abordé sur place à Goma par notre confrère Bernardin Nyangui.
Nous venons voir avec un président spécial, M. Alain Dos, comment nous pouvons renforcer encore l'action de la MONUC, particulièrement dans le Nord Kivu, dans lequel évidemment la violence atteint un niveau inacceptable et dans lequel la crise humanitaire est si forte. Nous travaillons bien sûr avec le représentant spécial et le force commandeur sur un renforcement des forces. Je rappelle que les 17 000, c'est sur l'ensemble de la République fédérale du Congo. C'est un énorme territoire. Nous avons 5 500 troupes déjà dans le Nord Kivu, mais il y a plusieurs fronts dans lesquels nous devons laisser les forces. On sait très bien qu'on doit être aussi dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, en Ituri, on va se la LRE dans le Haut-Ouélé. Ça fait au moins 4 endroits qui ne sont pas très grands. Les humanitaires demandent qu'on soit dans beaucoup de villages pour protéger leur action. Donc nous sommes répartis. Certes, le mandat de la force, c'est d'interdire à des forces armées de rentrer dans Goma. Le Conseil de sécurité examine actuellement la demande de M. Doss de renforcer la MONUC. Il n'y a pas encore de réponse du Conseil de sécurité. Ça va être dans les prochaines semaines.
Jean-Marie Kassamba, comment interprétez-vous la visite du Premier ministre avec une forte délégation gouvernementale d'une dizaine de ministres, ainsi que l'abbé Malmalou, cette visite, comment vous l'interprétez?
Ça démontre à suffisance les contraires de la propagande que nous avons vécue depuis une bonne semaine maintenant, l'absence de l'État dans cette partie de la République. Tout le monde disait Goma a été déserté par l'armée nationale, le gouverneur a pris la fuite, il n'y a plus personne là-bas. Et c'était relayé même jusqu'ici à Kinshasa. Quelques jours après, c'est le Premier ministre qui arrive avec une forte délégation. On l'a pas tué, on l'a pas chassé des Goma. La paix vive la paix Goma, Bukavu, Kindu, et il est encore là-bas.
Et c'est symbolique ou ça va donner des résultats?
C'est-à-dire qu'il y a une réponse réelle. La République démocratique du Congo existe. Les autorités congolaises existent. L'armée congolaise existe. Il faut qu'on se dise la vérité.
Mais n'est pas en très bonne position.
Nous sommes un État jeune. Les élections ont eu lieu il y a à peine un an et demi. Les institutions, à peine un an et demi, monsieur. On ne peut pas commencer à refonder l'État et être ressemblé à l'Angola ou au Nigeria. Et au même moment, on demande à la RDC l'impossible. Non. Attendez, je vous réponds. Adolphe Muzito est à l'Est pour montrer que, un, il n'y a pas absence ou insuffisance de secrète d'État. Deux, qu'il va écouter tout le monde, s'il si est en train de le faire, il vient de vous le dire.
Mais il y a quand même des hommages. Lui, il parle d'Amani, le CNDP dit non,
pas d'Amani. On ne va pas quand même faire les volontés de quelqu'un qui est hors la loi.
Mais il a quand même la force, hein,
si vous le la force parce que ce n'est pas parce que vous avez des Kalachnikov en plus que vous allez intimer l'ordre à celui qui est élu, qui a la légitimité populaire. Je dis tout simplement que ça n'interdit pas de discuter avec tous les Congolais. Imaginez, messieurs, le Bundu Congo augmente le nombre de Kalachnikov. Dans les Katanga, autant de roquettes. Alors on va dire, Amani ça ne nous intéresse pas, les institutions de la République ça ne nous intéresse pas, mais quelle est la notion de la société que vous voulez? Vous voulez la démocratie, vous voulez les institutions, vous voulez la République, ou vous voulez la jungle, ou c'est celui qui a le plus de biceps qu'on doit écouter?
Merci beaucoup Jean-Marie Katamba, Eyenga Sana, finalement, qu'est-ce que la visite du Premier ministre va apporter dans la résolution de la crise à l'est du pays, puisqu'il y a déjà un langage de sourds hein, entre le gouvernement et le syndicat. Le gouvernement dit, à travers le Premier ministre, programme Amani ou rien, et le CNDP dit niet, pas de programme Amani, on doit négocier en dehors du programme Amani.
C'est ça, je commence à avoir peur de que ce soit un déplacement pour rien. Je m'explique. Nous avons dit, mais c'est déjà un grand pas dans la mesure où le Premier ministre est pour le dialogue. Et de l'autre côté, l'intéressé, Sabine Kunda, n'a pas daigné accepter toutes les propositions de Kinshasa, à commencer par l'amnistie et à commencer par Amani. Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il veut? Jusqu'à présent, nous ne savons pas que veut-il. C'est la grande question qu'il faudra peut-être débattre sur le plan national. Que veut-il? Que veut Kunda? Hein, diriger Rutshuru et Masisi, deux territoires, pourquoi? Que veut-il? Est-ce qu'il ne veut pas de Amani? Pourquoi? C'est ça la grande question. Il fallait que, qu'on puisse aménager des circonstances pour qu'il puisse soit aller vers le Premier ministre, puisque le Premier ministre a fait un pas. Nous aurions souhaité qu'il puisse même envoyer une délégation du CNDP à Goma et rencontrer le Premier ministre et se discuter. Mais nous avons l'impression que c'est un langage de sourds, comme vous l'avez dit.
Merci beaucoup, Yenga Sana. Bélard, vous partagez le même point de vue, langage de sourds?
Effectivement, Mamadou Mouzitsou a fait la même preuve de courage quand même. Voilà, c'est un originaire de l'Ouest qui n'est pas spécialisé dans des questions de l'Est. Il a voulu aller passer du terrain la réalité. Voilà, il est parti à Goma. Mais pour autant, moi j'ai suivi le reportage de José de Chartemenga sur Radio Okapi le jour de l'arrivée d'Adolphe Mouzitsou à Goma. Tous ceux qui l'ont accueilli, les banderoles, tous les messages qui étaient sur les banderoles, c'est vous qui animez l'émission, vous souvenez de ce reportage-là, tout le monde lui disait plus question d'hostilité militaire, négocier. Alors, s'il est parti et que tous les gens qu'il a reçus lui ont dit cela, et que finalement il refuse de négocier, finalement il aura voyagé juste pour humer les faits du lac, je ne pense pas. S'il contient à Amani, c'est une question d'ego, mais lorsque les vies d'autant de Congolais sont en danger, est-ce qu'ils vont vraiment faire prévaloir notre ego? Notre ego nous amène où? Mais si on veut peut-être parler avec Kunda, appeler ça, parce qu'il y a une sorte de fétichisme qui est collé au nom Amani, appeler ça Amani 2 ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais pourvu qu'on cause avec lui. Quand on causera avec lui, qu'il dira qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut, on lui dira ça c'est faisable, ça c'est pas faisable.
Mais là, voilà. Mais aujourd'hui, le CNDP voudrait négocier tête à tête en face du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui il va négocier en position de force quand la MONUC s'est dit gravement préoccupée par des possibles exactions dans la localité de Kiwanja où le CNDP aurait tué des populations civiles? Ça a été dénoncé aussi quand les FARDC ont pillé Goma, certains éléments, Goma et commis également.
Nous devons mettre fin à tous ces genres de situations. pour mettre aujourd'hui, on a par décès en pied, tu as Goma, nous dénonçons. On le CNDP, tu as Kiwanja, nous dénonçons. Nous allons être un peuple de pleurnichards qui ne fait que dénoncer à longueur de journée. Ne pouvons-nous pas trouver de solution durable, une bonne fois pour tous, en parlant avec le CNDP? Nous perdons quoi? Pour nous dire, parle avec les FNL aujourd'hui à Bujumbura même.
Malheureusement,
il
n'a
pas perdu.
Nous n'avons plus,
pas perdu,
nous n'avons plus
à pouvoir pour cela.
Nous n'avons plus assez de temps. Nous sommes obligés de passer à notre troisième et dernier thème puisqu'il ne nous reste que 5 minutes. Cette semaine a aussi été marquée par un événement planétaire, l'élection du premier noir à la tête de la première puissance du monde, Barack Obama. Obama, certains analystes ont affirmé que le rêve du pasteur Martin Luther King, qui rêvait d'une Amérique où toutes les races auraient les mêmes chances, ce rêve, disais-je, s'est réalisé. La victoire d'Obama aux élections américaines est une question de compétence et non de race. Ce sont les propos de Dismas Kitenge de l'ONG Group Lotus, basée à Kisangani dans la province orientale. Pour lui, les Congolais devraient se servir de cet exemple pour mettre en avant les compétences des gens et non leurs origines. Dismas Kitenge était notre invité dans l'émission Dialogue entre Congolais de jeudi dernier. Suivons-le et nous reviendrons ensuite à notre invité.
L'impact peut être de 4 points rapidement sur le plan psychosocial. Je pense que Obama noir, aujourd'hui qui a gagné les élections, c'est pas question de racisme, c'est question de compétences, c'est question d'intérêt. Aussi sur le plan politique, la victoire de la démocratie, de l'état de droit. Et sur le plan diplomatique, je crois Obama va engager plus de dialogue. Et sur le plan militaire, je crois Obama va essayer de développer. Donc l'exemple d'Obama aujourd'hui au Congo, c'est pour dire qu'il ne faut pas qu'on regarde les origines des gens, mais qu'on regarde la compétence, qu'on regarde aussi la démocratie, l'état de droit, entre des dialogues pour trouver une solution à nos problèmes.
Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce qu'on peut retirer, nous, Africains, Congolais en particulier, de la victoire d'Obama?
C'est une leçon de tolérance et une leçon de modernisme. Je m'excuse, il faut protéger les minorités, je ne les cite pas. Mais dans les cas d'espèce aux États-Unis, qu'est-ce qu'on voit? Obama dit les États-Unis, c'est une mosaïque comme la République démocratique du Congo. Oui, les compétences, c'est le souci. Mais dans un cadre, l'état des droits, la République, la démocratie, c'est ça qu'on veut faire pour notre pays, notre nation. Il ne faut pas, parce que vous avez un soutien des multinationales, un soutien d'une puissance sous-régionale, derrière qui vous dit, monsieur, avancez, on est avec vous. Vous torpillez tout, vous mettez tout le monde au défi. J'ai même appris que votre monsieur, il est contre la Constitution, il est contre le Premier ministre.
Quel monsieur?
Le monsieur Kunda dont vous parlez.
C'est pas mon monsieur.
Justement. Donc, moi, je voulais vous dire que l'élection d'Obama, ça démontre que la compétence et la tolérance, le dialogue, c'est ça, le fondement d'une république.
Mais dans certains pays africains, Obama n'aurait pas été élu, parce qu'il n'est pas, son père n'est pas américain, vraiment d'origine.
Mais le monde est au métissage, monsieur Didier Senghor.
Merci. Et Yangasana?
C'est une leçon de démocratie, une leçon de dialogue, et ceux qui ne veulent pas appliquer la démocratie ne pourront jamais aller plus loin. Et je suis d'ailleurs très content de pouvoir enregistrer la réaction de notre chef de l'État qui a adressé un message en demandant au président élu, au président américain élu, de façon à ce qu'il vienne nous aider. Et c'est important dans la mesure où il est question que cet espoir, parce que nous sommes vraiment, vraiment au bord, qu'on vienne un peu nous recycler ici à partir de ces élections-là.
Merci beaucoup, Bilal Mboui. Pour moi, c'est également une grande leçon de tolérance. Une grande leçon de tolérance, particulièrement pour nos frères de l'Est. Autant nous compatissons avec tous les malheurs qu'ils vivent, autant nous devons également avoir le courage de leur dire qu'ici à Kinshasa, il nous est arrivé de voter même pour un homme de race blanche. Et Kalumbashi a un député d'origine libanaise, voyez-vous. Et que nous ne devons pas constamment continuer à donner la nationalité aux gens parce qu'ils ont une taille haute, ils ont le front haut, le nez mince et droit. Nous devons, une bonne fois pour toutes, tourner cette page-là. Malheureusement, ce genre de sentiments sont encore vivaces dans certaines parties de l'Est du Congo, et ça explique
en partie les drames que notre pays vit dans cette partie de la République.
Merci beaucoup. Donc, c'est par vos propos que nous mettons un point final à cette émission. Il a été réalisé par Kevin Couté. La technique était assurée par Héritier Sidiatala. Merci à Titi Poutou, Pierrot Ilamegi et Karine Kaja qui l'ont préparé. Merci à mes confrères Jean-Marie Katamba, journaliste et producteur de l'émission Fauteuil Blanc, Béla Rombouilly, directeur général de la chaîne de télévision Africa TV, et Eyenga Sana du quotidien Le Potentiel. Bonne soirée chez vous et bon week-end. Thank you.